Bonjour à toutes et à tous. Le principe de fraternité doit primer sur la répression des gestes de solidarité envers les migrants. Le Conseil constitutionnel donne donc raison à Cédric Herrou et à la main tendue des citoyens français. Ce sera le principal titre de ce journal, décrypté pour nous par Florence Sturm. Le bac 2018 livre ses résultats. Vont-ils permettre de débloquer le casse-tête Parcoursup pour les orientations post-bac? Nous poserons la question à Boris Loumagne. Et puis le volet international de ce journal va nous emmener en Asie, Corée du Nord, avec la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, Thaïlande avec cette opération de sauvetage particulièrement épineuse pour tenter de sauver 12 enfants prisonniers d'une grotte, et puis au Japon où 23 ans après l'attentat au gaz sarin du métro de Tokyo, l'ancien gourou de la secte Aum et 6 de ses ex-fidèles ont été exécutés ce matin. Nous reviendrons enfin sur la vie et les engagements du cardinal français Jean-Louis Torrent, décédé hier, un personnage incontournable du Vatican qui aura œuvré jusqu'au bout pour le dialogue interreligieux. Quel menu pour la grande table d'été, Maëlys?
Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau théâtre populaire d'Alexis Michalik avant de faire le portrait du moine photographe Mathieu Ricard qui expose en ce moment à Arles.
Ce sera à partir de 12h45. En ces temps où l'accueil des migrants sème la discorde à travers l'Europe, elle pèse lourd, cette décision du Conseil constitutionnel français. Les sages saisis par l'agriculteur de la vallée de la Roya, Cédric Herrou, ont fait primer le principe de fraternité sur ces lois qui pénalisent l'aide aux migrants. Plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France sont donc jugées inconstitutionnelles, Florence Sturm.
Délit de solidarité. Les défenseurs de l'aide aux migrants avaient imposé un oxymore dans le langage commun et les salles d'audience. Le Conseil constitutionnel consacre aujourd'hui le principe de fraternité. La QPC, question prioritaire de constitutionnalité, visait deux articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le premier punit l'aide au séjour irrégulier. Le second indique que cette aide ne peut donner lieu à des poursuites lorsqu'elle est le fait de la famille ou de toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte. Les sages ont donc en quelque sorte gommé la contradiction, rayé le flou juridique. Une aide désintéressée au séjour irrégulier ne saurait être passible de poursuite. La loi se réfère, rappelle-t-il, à l'idéal commun de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Concrètement, cela se traduit par une censure partielle des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. Avec cette précision importante, la décision du Conseil concerne exclusivement l'aide au séjour. L'aide à l'entrée irrégulière reste, elle, sanctionnée, a fortiori bien sûr les filières de passeurs et les réseaux organisés. Le législateur va donc devoir remédier à l'inconstitutionnalité constatée. Le Conseil lui laisse jusqu'au 1er décembre pour abroger le texte en question. D'ici là, plusieurs tribunaux auront à se prononcer, notamment celui de Gap, qui avait suspendu un procès dans l'attente de la décision des sages, celui de Nice également, où une militante d'Amnesty sera fixée sur son sort vendredi prochain. Le parquet avait d'ores et déjà préconisé sa relaxe.
Florence Sturm, et j'ajoute que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb salue cette décision. Il se félicite en tout cas du fait que la censure prononcée par le Conseil constitutionnel ne concerne pas les personnes qui aident des migrants à entrer illégalement sur le territoire français. Un député déchu de son mandat, c'est le MoDem Thierry Robert, élu dans la 7e circonscription de l'île de la Réunion, qui a vu son élection invalidée, là encore par le Conseil constitutionnel. Il avait tardé à régulariser sa situation fiscale, une dette ancienne et lourde qui lui vaut également une inéligibilité pour 3 ans. 750 000 candidats au baccalauréat 2018 et autant de manières de traverser les émotions fortes de cette journée. Les résultats ont commencé à tomber à 10h ce matin. On ne connaît pas encore le taux de réussite avant les rattrapages, mais ce que l'on sait, eh bien, c'est que le bac, avec ses examens couperets, vit ces dernières années. La réforme avec prééminence du contrôle continu va entrer en vigueur en 2021 et de manière beaucoup plus immédiate se pose la question de l'orientation post-bac avec la plateforme Parcoursup qui n'a pas encore franchement convaincu sur les progrès qu'elle apporte. Bonjour Boris Loumagne.
Bonjour Camille Magnard.
Au moins, est-ce que les résultats qui tombent en ce moment vont-ils permettre de débloquer la situation pour ces milliers de lycéens en attente d'une orientation?
Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on devrait effectivement y voir un peu plus clair. D'abord parce qu'entre 10 et 12% des candidats devraient être recalés aujourd'hui et puis à l'issue des épreuves de rattrapage. Cela pourrait représenter représenter entre 70 et 90 000 élèves qui seront donc définitivement écartés de la plateforme. Cela va créer un appel d'air qui devrait fluidifier la procédure pour les élèves restants. C'est en tout cas le message martelé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis, aujourd'hui, autre tournant avec les délais de réponse raccourcis. Avant les résultats du bac, les candidats avaient jusqu'à 7 jours pour répondre oui ou non à une proposition de formation. Cela a occasionné un allongement des listes d'attente. Désormais, les élèves n'ont que 3 jours de réflexion et une réponse à formuler impérativement.
Alors Boris, du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, on se veut confiant. Frédéric Vidal, la ministre, a réitéré ce matin son engagement sur LCI. À la rentrée, tous les bacheliers auront une place. Qu'est-ce qu'il en est actuellement?
Pour le moment, 670 000 candidats ont reçu au moins une proposition d'admission. 670 000 contre 102 000 élèves qui, eux, n'ont toujours rien reçu. Pour autant, pas d'inquiétude. Des places devraient se libérer. Il y a donc les candidats recalés, je vous le disais. Il y a aussi les 90 000 places qui ont été débloquées le 26 juin lors du démarrage de la phase complémentaire de Parcoursup, à quoi se sont ajoutées 10 000 nouvelles places en début de semaine et ce principalement dans les IUT. Bref, le bilan de Parcoursup devrait donc être meilleur que celui de l'ancienne plateforme Admission Post-Bac, puisqu'avec APB, en septembre 2017, au moment de la rentrée, 90 000 élèves n'avaient reçu aucune proposition de formation.
Boris Loumagne, merci à vous. Et parmi les orientations qui seront accessibles sur ce fameux Parcoursup dès l'an prochain, il y a le métier d'infirmier. Le traditionnel concours d'entrée aux formations en soins infirmiers va disparaître. Ces formations, elles vont dépendre désormais dès 2019 des universités. Et c'est une brèche dans l'égalité des chances pour l'enseignant Yves Rival. Il fait partie d'une coordination d'étudiants, professeurs et professionnels de santé qui s'est battue jusqu'au bout pour le maintien du concours infirmier.
Ça détruit une logique qui était bien claire. Le concours aujourd'hui permet de sélectionner les gens qui sont très motivés par le métier. Le métier d'infirmier, c'est pas un métier comme les autres. Il faut une vocation, il faut une passion pour aller travailler dans les hôpitaux et s'occuper des autres. Et là, le concours sélectionnait véritablement les gens vraiment motivés par le métier. L'idée de remplacer ça par une sélection sur dossier va avoir beaucoup de conséquences. Beaucoup de ces gens très motivés vont être remplacés par d'autres, sans doute plus brillants, scolairement parlant. Bien souvent, ces gens-là vont prendre les places après avoir classé infirmier en vœux 4, 5, 6, 10 peut-être. Donc ce seront des secondes et troisièmes choix. Seront-ils de bons infirmiers? On n'en est pas sûr à la longue. Et puis surtout, ils vont prendre la place de jeunes qui, eux, n'arriveront pas au métier dont ils rêvent depuis très longtemps. Je pense au bac pro, je pense au petit niveau, même de bac généraux, qui arrivaient en faisant de la remise à niveau, etc., à se hisser à la hauteur du concours qui n'est pas extrêmement sélectif, eh bien ils y arrivaient et cela effectivement allait au bout. Donc ça va très probablement disparaître. La sélection va être un peu banalisée, elle va être sur le modèle Parcoursup et ce modèle-là suscite des craintes.
Yves Rival de la coordination contre la disparition donc du concours d'entrée aux formations infirmières. Midi 38 sur France Culture, que reste-t-il des poignées de main et des engagements que l'on avait dit historiques le 12 juin dernier entre Donald Trump et Kim Jong-un, la dénucléarisation de la Corée du Nord, grande promesse dont s'était enorgueilli le président américain, à l'épreuve aujourd'hui d'une visite à Pyongyang de son secrétaire d'État Mike Pompeo. C'est la troisième visite en sol nord-coréen depuis avril pour Pompeo, mais cette fois le contexte s'est durci, bien peu d'avancées concrètes depuis le sommet de Singapour et surtout ces révélations de la presse américaine qui laissent entendre que l'administration Trump serait en train de se faire duper, Frédéric Ojardias.
La Corée du Nord continue ses opérations d'enrichissement d'uranium sur plusieurs sites secrets. Elle a récemment agrandi une usine de fabrication d'ogives et de missiles balistiques et elle vient d'effectuer des travaux de modernisation sur son site nucléaire de Yeonbyang selon une avalanche de révélations faites ces derniers jours par la presse américaine. Autant de développements qui jettent de sérieux doutes sur la volonté du régime d'abandonner l'arme nucléaire en dépit des vagues promesses faites lors du sommet Kim-Trump à Singapour. Au cours de cette nouvelle visite en Corée du Nord, Mike Pompeo devra donc obtenir de Pyongyang des mesures concrètes, notamment un calendrier de démantèlement. Une première étape est la déclaration par le régime de la liste complète de ses sites nucléaires et balistiques. Si le secrétaire d'État américain n'obtient aucun résultat tangible, Washington tombera victime de la stratégie habituelle de la Corée du Nord, qui consiste à faire traîner et à provoquer, avertit le quotidien sud-coréen Chungang Ilbo, qui affirme douter de la sincérité de Kim Jong-un. Quoi qu'il arrive, Mike Pompeo devrait ramener avec lui les dépouilles de centaines de soldats américains morts pendant la guerre de Corée, un rapatriement sans grandes conséquences politiques, mais qui permettra de sauver la face si aucun accord n'est trouvé.
Le correspondant de RFI à Séoul, Frédéric Ojardias. Les États-Unis seront eux-mêmes victimes de la guerre commerciale engagée tous azimuts. C'est la prophétie du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, alors que ce matin sont entrées en vigueur les surtaxes imposées sur 34 milliards de dollars d'importation chinoise aux États-Unis. Une guerre commerciale, ça ne profite à personne, déclare de son côté le chef du gouvernement chinois. Ça n'a pas empêché Pékin d'annoncer des mesures douanières similaires contre les importations américaines. 23 ans dans les couloirs de la mort japonais et l'exécution par pendaison tout à l'heure de 7 ex-dirigeants de la secte Aum, dont l'ancien gourou, grand ordonnateur de cet attentat au gaz sarin en mars 1995 qui avait fait 13 morts et plus de 6000 blessés dans le métro de Tokyo. En Thaïlande à présent, en cette saison de mousson, tous les regards sont braqués sur la sortie d'une grotte inondée, celle de Tham Luang dans l'extrême nord du pays, théâtre d'une opération de secours hors normes et particulièrement complexe. À plusieurs kilomètres à l'intérieur de la grotte, il s'agit de sauver 12 enfants et un adulte pris au piège des eaux et de la terre. Arnaud Dubus, correspondant de RFI sur place pour France Culture.
C'est une excursion qui a tourné de manière tragique et qui a saisi d'émotion l'ensemble de la Thaïlande. Le 23 juin, une équipe de football composée d'enfants âgés entre 11 et 16 ans et leur entraîneur âgé de 25 ans sont entrés dans la célèbre grotte de Tham Luang près de la frontière birmane après un entraînement. Très vite, de fortes pluies ont en partie inondé la grotte, les obligeant à s'enfoncer plusieurs kilomètres à l'intérieur d'étroites galeries. Une énorme opération de sauvetage a été mise en route avec plus d'un millier de secouristes et des experts venus de Grande-Bretagne, des États-Unis et de Chine. Après 10 jours sans pouvoir se nourrir, les enfants ont été retrouvés, mais depuis les autorités thaïlandaises hésitent sur la façon de les évacuer. Les enfants et leur entraîneur sont très affaiblis et aucun des enfants ne sait nager. Or, ils se trouvent environ 2 km à l'intérieur de la grotte. Pour en sortir, ils doivent plonger sans aucune visibilité à travers d'étroites galeries inondées. La mort par noyade d'un secouriste chevronné dans la nuit de jeudi à vendredi a montré le risque d'une telle opération. Parallèlement, le volume d'oxygène au sein de la grotte diminue et donc le temps presse. Une opération massive de pompage a été mise en place pour abaisser le niveau de l'eau, sans grand succès pour l'instant. Une autre solution serait tout simplement que les enfants, assistés par des secouristes et des médecins, attendent la fin des pluies dans plusieurs semaines, voire dans plusieurs mois.
Arnaud Dubus, lui, était surnommé le Kissinger du pape. Le cardinal français Jean-Louis Torrent est décédé hier soir dans un hôpital des États-Unis à l'âge de 75 ans. Et depuis 11 années, au Vatican, il était l'un des plus éminents ministres de la Curie romaine, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Marie Duhamel revient sur la vie et les engagements de celui qui était également, il faut le signaler, un fervent auditeur de France Culture.
Le Monde l'avait découvert en 2013. Il avait prononcé le célèbre Habemus Papam de la loggia de la basilique Saint-Pierre, annonçant l'élection du pape François, qui le nomma plus tard Camerlingue. Le cardinal Torrent n'aura plus à gérer l'intérim en cas de décès de François. Né en 1943, Jean-Louis Torrent entra très vite au séminaire à Bordeaux, sa ville natale, puis à Rome. Il étudie la philosophie, la théologie, le droit canonique, mais choisit la voie diplomatique. Au futur nonce, il suggérait toujours de ne pas jouer aux diplomates. Il serait méprisé, mais de se comporter en simple prêtre. Simple, discret, il fut pendant 13 ans le ministre des Affaires étrangères de Jean-Paul II. Il connut la chute du communisme, les génocides rwandais, les deux guerres du Golfe. Passionné de Descartes et de Lévinas, Jean-Paul II le nomma finalement responsable de la bibliothèque vaticane. Mais Benoît XVI rappela le diplomate un an après son discours de Ratisbonne qui avait embrasé le monde musulman.
préférant parler du choc des ignorances plutôt que du choc des civilisations. Le cardinal Torrent soulignait l'urgence, l'importance de l'éducation. Il plaidait auprès des représentants hindous ou musulmans pour la liberté religieuse. Il le fit notamment en Arabie Saoudite en avril dernier. Il fut aussi l'artisan en 2017 du voyage du pape en Égypte, scellant la réconciliation entre l'Église catholique et l'université d'Al-Azhar, un point de référence pour le monde sunnite. Il estimait que catholiques et musulmans avaient un ennemi commun, le fondamentalisme.
Marie Duhamel à Rome. D'autres nouvelles du ciel. Côté météo, l'amélioration se poursuit sur un grand quart nord-ouest de la France et des Pyrénées-Atlantiques à la Côte d'Azur, mais la pluie s'installe sur une bande centrale et sur le nord-est où des orages sont à craindre. Les températures affichent cet après-midi de 24 à 29 degrés sur la moitié nord, de 22 à 30 degrés au sud de la Loire. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Yacine Bouzard.